Mode d'emploi.
Bienvenue sur RFPP, vous écoutez l'émission Mode d'emploi, format secret de fabrication, comme tous les troisièmes vendredis du mois. Et oui, ce soir ça change, c'est pas le camarade Bob qui introduit, mais je vous rassure, il est là. Bonsoir Bob.
Ouais, oh, tu sais, je dirais pas grand chose ce soir, je me sens pas vraiment à ma place, mais je te fais confiance.
Vous l'écoutez sur 106.3 FM ou www.rfpp.net et comme d'habitude, l'émission est ouverte, vous pouvez appeler le standard au 01 40 05 06 10. Alors ce soir, c'est différent parce que c'est des femmes qui prennent la parole. Anne, qui est avec nous.
Bonsoir.
Bonsoir Anne, qui est consultante, mais une consultante pas tout à fait ordinaire. Les patrons ne l'aiment pas, elle va nous raconter tout à l'heure. Et puis, il y a Katia Storay qui est avec nous, qui est salariée d'une association d'éducation populaire politique. Et Sabine, qui est représentante du personnel au CHSCT, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui va nous rejoindre tout à l'heure. Alors, vous, femmes, qu'on a invitées, c'est pour venir nous parler, témoigner, analyser des conditions de travail et d'emploi des femmes que vous avez vécues ou dont vous avez pu être témoin, mais aussi de la reproduction de stéréotypes de genre, d'agissements sexistes ou de violences faites aux femmes au travail que vous avez pu constater, voire éprouver. Et vous allez nous parler de vos luttes, des difficultés que vous rencontrez pour faire changer les choses, mais aussi et surtout des leviers d'action possibles. Et on va commencer tout de suite avec Anne. Alors, je disais une consultante pas comme les autres parce que tu exerces un métier qui est pas forcément connu. Tu veux en dire un mot ou tu veux que je le dise puisque j'ai fait le même que le tien et puis on se connaît depuis un petit bout de temps?
Bah écoute, je vais le dire. Hein. Mmh. Moi, je suis donc expert auprès des CHSCT, donc des comités hygiène, sécurité et conditions de travail. Donc, c'est une disposition du Code du travail qui permet aux représentants du personnel au CHSCT de faire donc appel à un expert indépendant mais néanmoins agréé par le ministère du Travail et pour, dans le cas d'un projet important ou dans le cas d'un risque grave.
Voilà, alors je disais que les patrons t'aiment pas parce que tu vas enquêter et tu vas aller lever des loups.
Exactement.
Voilà, dans le cadre de projets ou de risques graves. Alors Anne, dès que je t'ai invitée à cette émission pour parler des conditions de travail des femmes, et je t'ai un peu demandé depuis toutes ces années, ça fait maintenant bien plus de 10 ans que tu arpentes les coulisses de l'entreprise, est-ce qu'il y avait des cas exemplaires ou des situations de femmes marquantes que tu aurais en mémoire? Et tout de suite, il y a un cas qui t'est venu à l'esprit.
Oui, en plus, il s'agit de la dernière expertise que j'ai réalisée, donc c'est tout frais encore dans ma mémoire. Donc c'est en fait un CHSCT d'une entreprise de la métallurgie, avec plusieurs sites industriels de production en France, donc qui a fait appel à nous. Pas dans le cas, pas pour traiter en fait des questions d'inégalité homme-femme, parce que c'est jamais la porte d'entrée, mais on s'est quand même penché sur des problématiques d'inégalité entre les hommes et les femmes. Et nous, on a été appelés dans le cas d'un projet de transfert de la majorité de la production, donc d'un petit site amené à fermer dans l'est de la France, transfert donc de cette majorité de production vers un autre site plus au sud. Donc j'essaie de camper un petit peu le décor. Donc l'usine cédante, hein, qui allait fermer dans l'est de la France, c'était un atelier de production quasiment exclusivement masculin, puisque sur à peu près les 26, la vingtaine d'ouvriers, on comptait une seule intérimaire. Et ce, depuis très longtemps. Donc c'était une production de petites séries de moyens et gros calibres. Donc ça a son importance parce que, vous le verrez plus tard, donc dans le cours de mon histoire, donc des produits pesant de 2 à 63 kilos, donc que les opérateurs devaient manipuler. Alors, du côté de l'usine accueillante, hein, plus au sud. Hein, donc là, c'était un atelier de production, à l'inverse, qui était composé à 65% d'ouvrières pour réaliser une production de masse, de petites séries de produits plus légers, ne pesant pas plus de 1,5 kg. Dans le cadre de ce transfert de production, nous on a vraiment souligné, on a souligné auprès du CHSCT le fait qu'il fallait être vigilant sur la question du transfert et surtout de l'utilisation des moyens de levage, des moyens d'aide à la manutention, parce qu'on s'est aperçu que sur l'usine cédante, ces moyens étaient très peu utilisés, parce que leur utilisation systématique, hein, qui permettait pourtant de soulager d'alléger la manutention manuelle, ne permettait pas d'atteindre les objectifs de production. Donc l'idée, c'était vraiment de fixer des objectifs de production qui soient réellement compatibles avec leur utilisation. Sinon, le risque, c'était le risque d'une sélection de la main-d'œuvre en fonction finalement du genre, c'est-à-dire le fait de privilégier le recrutement d'hommes sur ces postes et donc d'introduire une discrimination de genre dans le recrutement. D'autant que c'était des postes qui étaient mieux rémunérés dans cette usine cédante que dans l'usine accueillante.
Et ça, c'était une question et une vigilance et une lutte qu'avait pointé le CHSCT, ou c'est vous qui l'avez amené ?
Je dirais que c'est plutôt nous qui l'avons amené, parce que eux connaissaient très peu la situation de l'usine cédante. Donc c'est nous qui sommes allés voir ce qui se passait là-bas à travers des entretiens, des observations, également de l'analyse de données documentaires de données santé, de données RH, sur l'ancienneté, évidemment, sur les restrictions médicales également, je vais en parler. Donc c'était vraiment, on est là vraiment dans l'idée finalement aussi d'adapter le travail à l'homme et à la femme, hein, à l'homme avec un grand H, et d'améliorer finalement les conditions de travail, pas seulement pour les femmes, mais pour l'ensemble des ouvriers.
Adapter le travail à l'homme, un des principes fondamentaux de prévention inscrit dans le Code du travail, et ça va bien en le répétant.
Mais rarement appliqué, effectivement. Et ça, effectivement, ça supposait, et on est allé, effectivement, c'est quelque chose qu'on a préconisé, que finalement la direction a retenu, de recalculer les temps de gamme, hein, c'est-à-dire le temps consacré à chaque opération, hein, parce qu'on est vraiment sur une série d'opérations à réaliser, en tenant compte de l'utilisation de ces moyens de levage et de l'utilisation de ces palans. Parce que, alors donc, cas exemplaire, parce que la deuxième problématique qu'on a pu soulever, c'est effectivement que c'était, comme je disais, des opérateurs dans cette usine cédante, les opérateurs, donc, très quasiment exclusivement masculin, était, on s'est aperçu, beaucoup mieux rémunéré, puisque dans cette usine, contrairement à celle à l'usine accueillante où on avait un atelier composé majoritairement de femmes, on avait dans cette usine accueillante à peu près un tiers de la main d'œuvre qui était affectée à des postes cotés entre 170 et 190 sur la grille de classification de la métallurgie, alors que sur côté usine cédante, pardon, tous les postes, les premiers postes étaient cotés au moins à 215. Donc là, il y avait effectivement des différences de rémunération qui étaient patentes et qui étaient liées au fait d'une polyvalence qui était peut-être plus étendue, mais également mieux reconnue. Alors c'est vrai qu'il aurait fallu remonter à toutes les luttes sociales, etc., ou toutes les luttes syndicales qui avaient permis une meilleure reconnaissance de cette polyvalence et de ces postes de travail. Mais en tout cas, c'était déjà le deuxième, d'où aussi l'importance qu'il n'y ait pas un recrutement exclusivement masculin sur des postes qui étaient aussi mieux rémunérés.
Et cette question, vous avez pu l'instruire, parce que c'est un des soucis récurrents des CHSCT sur les questions de rémunération, où la direction bloque l'accès à ce sujet en disant que ça fait pas partie des prérogatives du CHSCT. Vous l'avez soulevé.
Oui, on l'a soulevé, on l'a effectivement indiqué dans le rapport en faisant une comparaison effectivement des rémunérations très succinctes, hein, quand même, parce que on n'avait pas beaucoup le temps et c'était pas l'objet principal de l'expertise, mais pour autant effectivement on l'a soulevé dans le rapport d'expertise, parce que ça faisait aussi partie de la demande du CHSCT de mieux comprendre la situation de l'usine cédante par rapport à l'usine accueillante. où il se situait. Et le troisième, finalement, le troisième sujet qu'on a pu aborder, qui concernait plus les femmes, c'était effectivement, dans cette usine accueillante, un nombre extrêmement élevé de troubles musculosquelettiques des membres supérieurs, et beaucoup de qui se traduisaient ou pas par des déclarations de maladie professionnelle, parce que c'est vrai que c'est extrêmement difficile de faire déclarer une maladie professionnelle, mais en tout cas qui se traduisaient aussi par beaucoup de restrictions médicales, donc dans l'atelier. Alors qu'on n'a noté aucune déclaration, aucune maladie professionnelle et aucune restriction médicale dans l'atelier majoritairement masculin. Alors pour nous, très clairement, mais la direction évidemment émet des doutes quant à cette hypothèse, c'est que l'atelier majoritairement féminin était donc soumis à des cadences extrêmement élevées. Puisqu'on était sur la production de masse, de grande production de masse, associée à des gestes répétitifs, même si c'était des gestes à faible force, puisqu'on était sur des produits plus légers, et combinés aussi à de la motricité fine. Et tout ça, c'était aussi, ces cadences élevées, c'était vraiment le résultat de multiples chantiers Lean. Donc le Lean Manufacturing hein, qui est quand même appliqué dans quand même beaucoup d'entreprises en France.
Réduction des coûts, réduction des temps à tout prix, voilà. Hein, c'est ça. Hein.
C'est vraiment la chasse au temps mort. Et cette chasse au temps mort a fait très clairement accélérer les cadences et augmenter effectivement pour nous ces troubles musculosquelettiques et du coup les restrictions médicales malgré une sous-déclaration. Des douleurs qu'on rencontrait aussi bien d'ailleurs dans l'atelier féminin que dans l'atelier, je vais dire ça pour simplifier, que dans l'atelier masculin. L'autre explication, à l'inverse, pourquoi à notre sens on a peu trouvé de TMS et de restrictions médicales dans cet atelier masculin, c'est qu'on avait des cycles de travail qui étaient beaucoup plus longs, avec des opérateurs qui étaient seuls sur leur îlot de production. Hein, donc ils occupaient successivement différents postes et donc n'étaient pas forcément soumis au rythme de travail de leurs collègues. Et on avait aussi beaucoup de changements de série qui faisaient qu'on rompait avec la répétitivité des gestes. Donc voilà, donc c'est pour moi un cas un petit peu exemplaire des atteintes à la santé qui peuvent
toucher particulièrement les femmes.
Voilà, ou des différences de rémunération, ou bien des discriminations à l'embauche.
Donc là, on a un exemple type où on a bien une différence à la fois sur le plan de la sécurité et sur le plan de la rémunération entre un atelier masculin et un atelier, disons, plus féminin. C'est ça, en fait, grosso modo. Il y a moins de contrôle sur les conditions de travail, tu dirais, du fait que, à quoi on attribue ça? C'est un moindre respect des salariés quand elles sont des femmes?
Alors, sur les différences de rémunération, je ne lirais pas ça à un contrôle. Je lirais ça, effectivement, à une polyvalence, comme je te le disais, qui est mieux reconnue. Après, on n'est pas allé creuser, voir savoir si c'était le fruit de lutte syndicale, d'un site qui était plus syndiqué que l'autre, quoique non, à première vue. En tout cas, cette polyvalence, elle était aussi plus étendue, mais elle était mieux reconnue, et la rémunération était plus élevée. Après, non, sur le plan de la sécurité, qu'est-ce que tu...
Non, mais j'ai l'impression qu'il y a un moindre contrôle dans l'atelier, on va dire l'atelier qui est préservé, enfin dans lequel arrivent les autres. Il y a un moindre contrôle sur les cadences, sur les postures, sur il y a pas quelque chose de... Enfin, j'ai l'impression d'un travail plus contraint, plus coincé dans le temps, plus... D'après ce que tu décris. Ouais. Le TMS, c'est un signe, souvent, de ça.
Oui, c'était beaucoup lié, en fait... aussi bien à l'organisation du travail qu'aux caractéristiques de la production, puisqu'on était vraiment sur une production de masse, alors que dans l'autre cas, on est sur la production de petites séries. Donc, qui dit petites séries, dit aussi changement. Il faut changer les équipements, enfin, ajuster les équipements. Donc, tout ça, ça rompt avec la répétitivité. Et aussi, à mon avis, une différence en termes d'organisation du travail, à savoir que dans l'atelier masculin, les opérateurs étaient seuls sur leurs îlots. Donc, ils n'étaient pas dépendants, en fait, du rythme des collègues. Alors que dans l'atelier masculin, dans l'atelier majoritairement féminin, il y a aussi des hommes, bien sûr, il y avait effectivement trois personnes il y avait trois postes sur chaque îlot.
Ouais.
Et il y avait une personne sur chaque poste. Donc, chacun est interdépendant du rythme du collègue. Après, il faudrait un petit peu plus creuser, effectivement, parce que nous, c'était pas notre porte d'entrée, mais...
Et la dépendance au rythme est bien reconnue comme une des contraintes temporelles.
Complètement.
Et qui peut tout à fait influencer les TMS. Il y avait un autre problème récurrent que tu constates dans beaucoup d'expertises, mais je te propose qu'on en parle à l'arrivée de Sabine, parce que vous avez un sujet en commun. Donc, on va le laisser en suspens, parce qu'il concerne la question du temps de travail, qui va nous amener à la question de la double journée de la femme, qui, on n'en a pas fini avec ça. Et je me tourne vers Katia, parce que Katia, comme je l'ai dit, est salariée d'une association d'éducation populaire politique, et pas seule, mais avec un collectif de 11 femmes. Elles ont, en 2016, aux éditions La Grenaille, sorti un livre qui leur a demandé 3 ans de travail, qui s'appelle « Éducation populaire et féminisme », mais tenez-vous bien, il y a un sous-titre, « Récit d'un combat, entre parenthèses, trop ordinaire, analyse et stratégie pour l'égalité ». Katia, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre et pourquoi vous l'avez écrit ?
Alors, pour commencer, peut-être je vais situer qui on est, parce que quand on dit éducation populaire politique, je ne sais pas si ça parle à beaucoup de gens. Donc on est un réseau qui s'appelle La Grenaille, hein, on a autoproduit, c'est pour ça que c'est les éditions La Grenaille, de 4 structures, au départ toutes coopératives, donc des SARL coopératives, qui venions majoritairement du milieu de l'éducation populaire traditionnelle, c'est-à-dire ce qu'on entend par éducation populaire, c'est on va dire les métiers du champ de l'animation, des loisirs, etc. Et qui, en fait, voulions sortir un peu de la fonction pacificatrice, on va dire, dans laquelle l'évolution historique des mouvements d'éducation populaire institutionnelle a contraint les travailleurs et les travailleuses. Et du coup, on a monté des structures d'éducation populaire qu'on dit politiques, c'est-à-dire qui revendiquent une visée de transformation de l'ordre social, quoi, avec par des pédagogies critiques. Voilà, donc au départ, il y a une structure qui s'appelle la SCOP Le Pavé, qui émerge en Bretagne. Et rapidement, cette coopérative fonctionne plutôt pas mal. Comme on dit, il y a un marché pour la radicalité. Et en fait, refuse de grossir pour garder son fonctionnement coopératif, et du coup soutient l'émergence de 3 autres structures, l'Engrenage à Tours, Vent Debout à Toulouse et l'Orage à Grenoble. Et donc on constitue un réseau, et donc on se regroupe 2 fois par an, une fois pour penser notre organisation de réseau, on va dire, c'est des AG, quoi, l'Assemblée Générale. Et une autre fois pour affiner les principes politiques qui nous animent, ou pour affiner les contenus de nos activités, puisqu'on fait de la formation professionnelle, de l'accompagnement de collectif, de l'accompagnement à la recherche-action, des conférences gesticulées, etc.
Et on a parlé des conférences gesticulées ici.
Tout à fait.
Voilà. Et donc, à un de ces regroupements,
en fait, donc déjà, quand le réseau se constitue, alors on était plutôt sur des revendiqués de l'anticapitalisme, on se cachait pas de ça, y compris auprès de nos clients, entre guillemets. Et par contre, on était très peu sur d'autres rapports sociaux et pas tellement, on revendiquait pas tellement des pratiques féministes. Voilà, et sauf qu'au moment où le réseau s'est constitué, ben ces sujets ont commencé à venir sur le tapis. Et à l'occasion d'un des premiers regroupements de ce réseau, une de nos collègues s'est faite agresser sexuellement par un de nos collègues. Donc de 2 structures, de 2 coopératives différentes.
Donc on est bien dans le cadre d'une violence faite aux femmes au travail.
Au travail, voilà. Et en fait, je vais décrire un petit peu plus précisément, mais pour revenir à ta question, ce livre, il raconte les 3 ans de regroupement de ces 11 femmes en non-mixité pour travailler à partir de cette agression sur comment, dans un premier temps, cette agression, elle n'a pas été traitée du point de vue du droit du travail. Elle a été traitée partiellement d'un point de vue politique par la SCOP employeuse, mais l'agresseur n'a pas été sanctionné. Comment, en fait, au bout d'un an, à un autre regroupement de ce réseau, à la faveur d'un espace de réflexion qu'on avait sur féminisme et patriarcat, l'agression a été renommée et rendue publique. Et où là, ben, on a essayé de comprendre pourquoi pendant un an, elle n'avait pas été sanctionnée du point de vue du droit, en tout cas. Et donc, on a passé 3 jours d'analyse à une quinzaine de personnes là-dessus. Et à l'issue de ces 3 jours, où on a analysé et la responsabilité de l'agresseur, mais aussi la responsabilité de notre réseau, c'est-à-dire qu'est-ce qui avait autorisé qu'une agression sexuelle se déroule dans notre réseau qui se revendiquait progressiste et un peu formé aux questions de domination. Comment ça se fait qu'on n'avait pas on n'avait pas agi là-dessus. Et du coup, à l'issue de ces 3 jours d'analyse, on a décidé avec les collègues femmes de témoigner de ce qu'on avait compris à travers des lectures théoriques, mais aussi à travers tout ce qu'on avait pu analyser. Voilà, de témoigner de ce qui s'était passé, parce qu'on s'est rendu compte que ça se passait beaucoup aussi dans les milieux militants et que c'était assez du verbe terme, qui avait beaucoup de cas similaires. Donc on s'est dit, ben, on va témoigner de ça, de tout ce qu'on a analysé qui a freiné le traitement de cette agression. Et puis on va essayer de vulgariser un petit peu tous les apports théoriques qu'on a pu avoir, puisqu'on avait fait 1 an de préparation aussi sur ces questions, qui nous ont, nous, aidés et éclairés pour analyser cette situation. Donc, on est parti pour écrire ce qui devait être une brochure, en fait, hein, donc qui devait pas prendre énormément de temps et qui devait faire 20 pages. Et quand on a commencé à se regrouper d'abord à 3, puis 5, puis 8 rédactrices, ben on s'est rendu compte que ben il fallait que on s'applique nos principes d'éducation populaire, donc on parle de nos récits. On s'est rendu compte qu'on n'était pas toutes d'accord dans la façon de raconter et l'agression et l'année qui avait suivi, qu'il fallait faire émerger les différents points de vue et tous les conflits qu'il y avait entre structures, etc. Et puis petit à petit, on s'est dit, ben faut aussi qu'on se raconte ce qu'on vit en tant que femme au sein de nos structures. Dans nos coopératives, quoi. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des problématiques communes. Par exemple, ben, quand on était en co-animation avec un collègue homme, comment on se sentait, qu'est-ce qui se passait, pourquoi des fois on se sentait pas légitime, pourquoi dans nos coopératives, ben les médias c'était les hommes, la compta c'était les hommes, et puis même si on était plutôt sur une polyvalence et une non-spécialisation.
La compta c'était les femmes, tu veux dire?
Non, la compta, alors le budget c'était les hommes,
et
voilà,
la gestion.
Bon, là c'est tiré un peu, c'est un peu caricatural pour aller vite, mais en tout cas on s'est rendu compte de problématiques communes et on est sorti un peu de nos isolements et voilà, et on s'est renforcé. Et du coup, ben, on a multiplié ces regroupements parce qu'à chaque fois, on se disait, ben, à ce regroupement, on finit la rédaction de notre brochure. Et puis, en fait, ça a duré 3 ans. Et puis, c'est un bouquin qui fait 300 pages, mais ces 300 pages, c'est trompeur parce que ça se lit.
Non, il est gros, il est gros.
Il est gros, mais voilà. Et
il y a une question qui me... Je tiens plus, là.
Tu tiens plus, vas-y, coupe-moi.
Je sais que ça pourrait être très long, mais les principales causes qui ont conduit à ce que le sujet soit pas traité juridiquement, est-ce que tu peux nous en dire deux mots?
Alors, tout à fait. Ça peut paraître bizarre, puisque on revendiquait, notamment dans nos formations professionnelles, on invitait dans les équipes dans lesquelles on intervenait le recours au droit du travail, on avait plutôt des postures assez syndicales, on avait dans nos rangs des syndicalistes chevronnés. En fait, au départ, quand l'agression a été connue par quelques-unes et quelques-uns, le discours qu'on avait, c'était « Ah ben non, ça se traite au pénal ». Et on n'est pas allé chercher beaucoup plus loin. Et en fait, c'est une fois qu'on a sollicité d'autres ressources et qu'on s'est mieux renseigné qu'on s'est rendu compte que non, évidemment, l'employeur a une obligation d'établir une commission d'enquête et d'entendre les deux, enfin la victime et l'agresseur. Et donc, dans les explications qu'on a trouvées et qu'on détaille dans la première partie du livre, c'est une sorte de culture de famille, un peu, de culture militante, un peu, on est de gauche. Par exemple, sur un exemple très concret, c'est la logistique. Par exemple, quand on intervenait en formation, on se faisait un honneur de dire non, mais nous prenez pas un hôtel, nous on peut dormir chez l'habitant. Et donc, on reproduisait ça, notamment pendant nos regroupements, pour des questions d'économie aussi, hein, financières. Et donc, on avait des prêts de maison de copains, et donc on dormait plus ou moins tous ensemble, voilà, un peu n'importe comment, etc. Ce qui en fait autorise, surtout quand on rappelle pas le cadre de la loi et du droit sur le harcèlement sexuel au travail, bah, qui autorise plus facilement que ce genre d'actes se produisent.
Mais très clairement, vous n'aviez pas, enfin, l'employeur n'avait pas mis les moyens pour que vous ayez des conditions de travail, et en l'occurrence là, d'hébergement pendant vos déplacements, qui soit protectrice de ce point de vue-là. Mmh. Donc on est bien là. Donc, et c'était ma question, c'est qu'est-ce qu'on trouve dans le livre l'explication d'une organisation du travail qui a créé le terrain favorable, en tout cas qui n'a pas empêché ce type d'agression.
Tout à fait.
D'accord.
Et c'est à partir de ces analyses-là et de la volonté de comprendre comment c'était notre réseau qui avait autorisé que ça se passe, que du coup ça nous a amené aussi à décrypter plein d'autres endroits où on avait des, au sein de nos fonctionnements de structure, au sein du réseau, mais aussi dans nos formations, qui avaient des effets de mécanismes patriarcaux, quoi. On a même parlé à un moment donné de droit de cuissage, parce qu'on s'est rendu compte que par exemple certains de nos collègues formateurs coucher, je ne sais pas comment le dire, régulièrement avec des stagiaires, ce qui n'était pas du tout le cas enfin, qui n'était pas du tout dans les pratiques des formatrices femmes. Mmh. Voilà, donc ça a permis, là je donne quelques exemples, mais en fait, dans la première partie, pour vous dire un peu la structure de cet ouvrage, la première partie, on raconte l'agression, l'effet de l'agression, les effets de l'agression dans notre réseau et toutes les analyses qu'on a pu produire après coup. La deuxième partie, on raconte la transformation que ces trois années d'analyse en groupe non mixte de 11 femmes ont produit. Et notamment dans la façon de faire notre métier, dans nos pratiques au sein même de nos coopératives. Et on a ce qu'on a appelé un livret central, c'est-à-dire le cadre théorique qui nous a aidés à certains moments pour analyser ce qu'on vivait, quoi. C'est-à-dire que ça a été vraiment trois années où on a alterné entre le récit de ce qu'on vivait, aller chercher de l'analyse, aller et se raconter tout ça.
Moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres. De mon expérience, c'est vrai que, par exemple, ça me fait penser au secteur de l'économie sociale et solidaire, où on trouve énormément de harcèlement et énormément, justement, d'ambiguïté sur le statut du salarié. Et qu'est-ce qu'il fait? Et pourquoi il se motive le matin? Et donc, on évacue les questions de paye, les questions de sécurité, évidemment, et compagnie, parce que, on est en train de faire quelque chose de très noble, donc on se donne à 200%. Donc ça, c'était une première chose, mais il y a quand même un truc qui m'a marqué. Selma, tu dis, l'employeur est responsable. Ok, ça c'est normal, dans une boîte, l'employeur est responsable, mais là on est dans une SCOP. C'est qui l'employeur responsable?
Dans une SCOP, il y a un employeur.
D'accord, ok.
Mais il a les mêmes obligations relatives à la santé et à la sécurité.
C'est qui, moi? Mais je mets qui en prison, moi?
C'est le gérant de la SCOP.
Ah, voilà. Donc il y a bien, il y a un gérant, et donc il y a un conseil d'administration qui détermine qui est le gérant.
Alors, il n'y a pas de conseil d'administration, il y a des associés, qui sont majoritairement salariés, pour être coopératifs. Mm-hmm. Mais effectivement, il y a des gérants. Alors nous, on avait une pratique de co-gérance. Et plutôt, on avait, en tout cas sur le papier, on donnait des noms de co-gérants pour des questions aussi de facilité administrative. Mais on s'estimait, en tout cas, même si effectivement, dans les faits, les gérants assumaient certaines choses, mais on s'estimait tous à la fois employeurs et employés. Mmh. Donc on avait moyennement, on en parlait de ça, mais c'était un peu dans les discours souvent. Et par contre, ce que tu pointes, oui, effectivement, ça a été évidemment un problème, d'autant que la situation était complexifiée par le fait que l'employeur de l'agresseur n'était pas le même que l'employeur de l'agressé, et que notre réseau, c'est-à-dire ce qui regroupait nos structures, avait pas de d'entité juridique, n'était pas employeur, quoi. Voilà, mais effectivement, ça a posé souci. Est-ce que tu dis sur le milieu de l'ESS dont on fait partie,
oui,
ou le milieu associatif, où on est à la fois bénévole, militant, travailleur, etc. Et on peut à la fois revendiquer du droit du travail pour les autres, mais c'est très compliqué de
se défendre soi-même.
Voilà.
Moi, j'en ai deux autres questions, mais ensuite, tu poses musique et puis
j'introduis la musique, je peux?
Ça va.
Ok, c'est un morceau de Tracy Chapman et c'est un morceau qui parle du bruit qu'on entend le soir à travers le mur, tous les soirs, et qui fait qu'on hésite à appeler la police, mais bon, de toute façon, la police ne vient jamais. Et le jour où quelqu'un se déplace, malheureusement, c'est une ambulance. Et le rôle de la police dans ces cas-là, c'est de dire à la foule de se disperser parce qu'il faut tous qu'on aille dormir.
Voilà.
Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all.
Katia, qu'est-ce que ça vous a apporté de travailler pendant 3 ans sur ce bouquin ?
Eh ben, beaucoup de choses. Ça nous a apporté bah déjà d'expérimenter ce qu'on prône partout ailleurs. Alors, on peut y mettre des grands mots d'action recherche, etc. Mais en tout cas, vraiment une expérimentation sur du long terme de dominés qui se retrouvent entre elles, enfin de dominés sur la question en tout cas des rapports sociaux de sexe, quoi, et qui se retrouvent entre elles et qui s'auto-organisent et qui analysent les mécanismes de domination. Donc beaucoup de conscientisation, alors sur notre vie professionnelle, mais aussi dans nos vies personnelles. Voilà, l'expérimentation de l'auto-organisation, des stratégies de lutte en interne de nos structures. Aussi avec aussi d'expérimenter les phénomènes de répression voilà puisque enfin sur le rapport social la classe des hommes sont les et le patron des femmes quoi enfin on pourrait dire ça comme ça voilà donc expérimenter la création de droits le fait de les mettre en œuvre toutes ces stratégies enfin voilà la lutte quoi en gros au sein même de nos structures avec nos camarades qui sont au demeurant nos camarades aussi et puis aussi beaucoup de transformations et à la fois dans nos contenus de formation
c'est-à-dire
que maintenant je pense qu'on fait plus de formation sans parler d'une approche matérialiste qu'est-ce que c'est qu'une approche matérialiste, qu'est-ce que c'est que les rapports sociaux, comment ça fonctionne comment on lutte contre la méritocratie, qu'est-ce qu'on embarque dans nos organisations du travail sur la gestion d'équipe comme idéologie dominante, etc. Voilà sur enfin différentes choses et aussi donc à la fois dans les contenus et à la fois dans les pédagogies qu'on développe, c'est-à-dire que en fait on s'est rendu compte et on le raconte aussi dans le livre que il y avait une forme un peu viriliste de la pratique de ce métier. Donc en gros ce qui était valorisé c'était
savoir... Tu veux dire que les mecs n'ont pas besoin de préparer?
Voilà,
mais
par exemple.
Mais t'inquiète pas, ils préparent en douce.
Par exemple, pas tous, mais en tout cas nous on avait par exemple besoin de préparer et besoin de se légitimer quand on allait faire des formations ou des prises de parole publiques, des fois devant 200-300 personnes, hein. Voilà, et du coup ce qui était valorisé c'était ses capacités à être, d'envoyer du steak, on avait tout un vocabulaire là-dessus et on s'est rendu compte que c'était une forme virile et que nous, alors c'est pareil, là je genre homme-femme, c'était pas que comme ça, mais en tout cas on a pu développer, nous en tant que femme, une autre façon aussi de pratiquer notre métier d'éducation populaire qui est peut-être plus dans l'accompagnement avec des formes d'humilité, etc. Et pour on a tout compris, on va vous expliquer. Je caricature un petit peu.
Merci,
voilà.
Katia.
Et un dernier mot, ça nous a permis de nous sentir constituer une classe de femmes, quoi. Voilà. Ça, c'est quelque chose que maintenant on a fort, même s'il y a des choses qui nous divisent, mais en tout cas, on se sent faire classe tout ensemble.
C'est parce que je vois Sabine qui nous a rejoint, représentante, comme je vous l'ai dit, du personnel au CHSCT, Comité d'hygiène, sécurité et des conditions de travail, dans une grande entreprise française. Sabine, merci d'être venue. Je sais que tu as couru. Ça va ?
Bonsoir et merci pour votre invitation.
Alors, quand je t'ai invitée et que j'ai commencé à te parler du CHSCT, des conditions de travail des femmes, Anne a tout de suite eu un cas exemplaire dont elle a eu envie de parler. Et toi, la première chose que tu m'as dite, tu m'as parlé d'enquête, notamment d'une enquête faite en 2016 où les résultats étaient sans équivoque sur la question du sexisme. C'est une enquête faite par le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui a été réalisée en collaboration avec l'Institut BVA. Et à partir de là, deux sujets, tu as associé spontanément deux sujets. C'est la question des projets de réorganisation dans les entreprises. Et puis le second, c'est le sujet ô combien important des agissements sexistes, notamment dans la communication d'entreprise. Alors sur la question des réorganisations, tu voulais nous en dire quoi ?
Alors, je voulais commencer par parler du rôle des élus CHSCT, qui consiste à participer à la préservation de la santé physique et mentale des salariés, et donc qui examine les projets de réorganisation présentés par l'entreprise sous cet angle-là.
Ils sont consultés, c'est ça ?
Informés. Ou informés et consultés.
D'accord.
Ça dépend. La consultation n'est pas systématique, mais ça n'empêche pas de donner notre avis et de le motiver. Donc les projets de réorganisation, donc on les examine sous cet angle-là pour voir quelles sont les conséquences au niveau des conditions de travail des salariés et les impacts sur leur état de santé, notre rôle étant de faire en sorte qu'ils se dégradent le moins possible. Donc dans le cadre des pour citer quelques exemples de projets de réorganisation, ça peut être très 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 divers, très varié. Il peut s'agir de rajouts d'activités ou de changements d'activités, également des déménagements qui sont liés à des regroupements, des fermetures ou des regroupements d'établissements, ou alors des changements d'horaires pour par rapport à des besoins exprimés par la clientèle. Donc, bien sûr, ces projets de réorganisation ont des conséquences pour l'ensemble des salariés, hommes et femmes. Alors, quand on parle de fermeture de site ou de changement d'horaire, on voit tout de suite par rapport à l'allongement du temps de trajet ou des horaires plus tardifs, c'est évident qu'il y a des impacts sur l'ensemble des salariés. Mais je voulais faire un focus sur les séquences qui sont plus importantes pour les femmes, parce que bon, je fais référence à la double journée, ce que j'appellerais le travail en plus du travail salarié rémunéré.
Ah bah tiens, à ce propos, Sabine, j'ai trouvé ça date de, c'est dans Économie et Statistiques, un numéro de 2015. Alors en 2010, et je pense que ça n'a pas beaucoup changé, les femmes effectuent la majorité des tâches ménagères et parentales, respectivement 71% et 65%. Et toujours en 2010, les femmes consacrent aux tâches domestiques chaque jour, en moyenne, près de 3 heures, et les hommes y passent en moyenne 1h45.
Oui, donc je parlais de la donc du travail domestique, le travail parental, donc par rapport aux enfants, et puis ce que j'appellerais le travail aussi filial ou je veux dire la solidarité familiale, parce que je pensais aussi par exemple on peut être amené à s'occuper de ses parents âgés ou de ses beaux-parents ou d'une grand-mère, enfin ce que j'appellerais la solidarité familiale qui je pense repose en grande partie sur les femmes également. Donc, dans le cadre de mon travail, bien sûr qu'on est confronté à ces problématiques-là. Et en tant qu'élu CHSCT ou délégué du personnel, on a eu à défendre quelques cas, disons, personnels. De personnes, de femmes qui étaient en temps partiel, seules, avec des enfants. Et en s'appuyant sur le code du travail, on a pu faire en sorte de pas trop dégrader leurs horaires de travail, d'éviter qu'elles finissent trop tard pour qu'elles puissent préserver, si on peut appeler ça un équilibre, essayer de jongler le mieux possible entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
En tout cas, merci Sabine, parce que c'est grâce à toi que j'ai découvert l'article L3123-12. Je le cite, la numérotation a changé la loi travail, mais c'est dans le cas de temps partiel. L'employeur qui demande aux salariés de modifier la répartition de sa durée de travail, il peut pas si c'est pas prévu dans le contrat de travail.
Ça, c'est important.
Et si c'est prévu dans le contrat de travail, mais que la modification n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, ça ne peut, si le salarié refuse, ça ne peut pas être un motif de licenciement. Et c'est sur cet article que vous vous êtes appuyé dans un des cas.
Exactement. Et bien sûr, la personne doit prouver le caractère impérieux de ses obligations familiales. Mais enfin, pour une femme qui est seule avec enfant, ça me semble assez évident que ça peut vite devenir très très compliqué de finir plus tard, notamment également par rapport au transport. Les gens qui habitent loin, ça peut être très très compliqué après pour rentrer chez soi le soir.
Et c'était justement sur ce sujet, Anne, que tu voulais rebondir, parce que tu me disais que lors d'enquêtes sur les conditions de travail, tout ce qui va toucher à la modification du temps de travail, et en particulier pour les femmes, c'était quelque chose que tu observais de manière récurrente.
Ouais, effectivement, notamment dans le cas d'horaires atypiques. Hein, je parlais du travail de nuit, du travail du week-end, du travail en 2-8, c'est-à-dire en équipe du matin, en équipe de l'après-midi. Donc, et les problématiques, les problèmes que ça peut poser en termes de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, en particulier la vie familiale. Puisque, comme le rappelait Selma, on sait que les femmes passent plus de temps en moyenne, même si évidemment il y a des exceptions, à s'occuper des enfants que leurs conjoints. Donc, nous, on a souvent été confrontés à ça dans le cadre d'expertise, effectivement, comme tu le rappelais, concernant des modifications d'horaire, des changements de roulement, etc. Par exemple, dans le cas du travail en 2-8. Ça pose question en soi, parce qu'il faut trouver un mode de garde qui soit adapté. Il y a quand même très peu de crèches d'entreprise. Les crèches ont des horaires de journée et qui sont pas adaptés à ces horaires décalés. Moi, j'ai trouvé une seule entreprise, effectivement, après avoir, on a quand même eu plusieurs dossiers, plusieurs expertises sur la question. Une seule entreprise, j'en nommerai pas, mais vous allez la reconnaître, de transport public parisien, effectivement, qui mettait à disposition auprès de ses agents des listes d'assistantes maternelles acceptant effectivement de travailler sur ces horaires décalés et qui je sais pas si ça existe toujours ou pas, et qui proposait une aide financière supplémentaire, parce qu'évidemment ça se paye aussi, hein, c'est bien normal, mais c'est bien le seul cas. C'est comme l'accueil effectivement périscolaire qui commence à 7h en banlieue. Bon, c'est vrai, quand on travaille en 2-8, c'est pas possible. Donc ça, c'était le premier problème, trouver un mode de garde qui soit adéquat. Et le deuxième problème auquel on a beaucoup été confronté, c'était la question de manque de stabilité des horaires. Vraiment la question de ne pas pouvoir anticiper sur ces horaires de travail, parce que les délais de prévenance n'étaient pas respectés, et qu'on était prévenu effectivement du vendredi pour le lundi d'une modification d'horaire. Ça, je me rappelle que on était intervenu dans un hôpital de la région parisienne, où une des sources de tension entre collègues et surtout entre encadrement, entre cadres de santé et équipe soignante, se cristallisait autour de la question de la construction du planning et du fait que, compte tenu du sous-effectif, donc pas tant dans les hôpitaux, mais également de l'insuffisance des moyens de remplacement, ces plannings n'étaient pas communiqués suffisamment à temps, les délais de prévenance n'étaient pas respectés, et on devait travailler du matin, on se retrouvait à travailler le soir, etc. Et ça, c'était vraiment une source à la fois anxiogène, hein, pour les personnes, hein, et également de tension dans les relations de travail.
Et c'est là tout de suite, c'est intéressant, parce qu'on voit le lien avec la santé, parce que le manque de prévisibilité dans le travail, encore une fois, a bien été établi comme un des facteurs qui pouvait dégrader la santé.
Ouais.
Ici, on n'appelle pas ça les risques psychosociaux, mais les risques organisationnels. Et je reviens à Sabine, parce que le deuxième sujet dont tu voulais témoigner, c'est celui des stéréotypes et des agissements sexistes dans l'entreprise.
Alors, tu faisais référence à une enquête. La première, elle avait eu lieu en 2013 et elle portait sur des cadres d'un certain nombre de grandes entreprises françaises. La plus récente, elle date de l'automne 2016 et elle porte sur une population de non-cadres, de 8 ou 9 grandes entreprises également, et plus un sondage national, secteur public et privé. Et le constat qui est fait est accablant, effectivement. Cette enquête met en évidence que le sexisme est extrêmement banalisé dans les entreprises. Alors, si je peux apporter un petit témoignage par rapport à l'entreprise où je travaille.
Sabine, oui. Regarde, parce que je l'ai sous les yeux. Dans cette enquête, on a quand même 74% des femmes salariées non cadres qui considèrent que dans le monde du travail, les femmes sont régulièrement confrontées à des attitudes ou des décisions sexistes, contre 54% des hommes. Mmh. Alors, on trouve ça, hein, sur Internet, ce rapport. Comme tu le disais, les résultats sont accablants et il y a des statistiques enfin très forte, quoi, mm-hmm. sur quelque chose qu'on pensait avoir.
Juste sur la stat, c'est 54% des hommes qui considèrent que les femmes sont confrontées à des agissements sexistes. C'est-à-dire qu'il y a une moins grande visibilité chez les hommes de ce qui arrive aux femmes, en fait. C'est ça ou c'est.
C'est 74% des femmes salariées qui considèrent que dans le monde du travail, les femmes sont régulièrement confrontées. Oui,
oui c'est ça. Donc les hommes, on sous-estime ce que ressentent les femmes. Ok, ça marche.
Et on a 47% des femmes non cadres qui ont déjà été directement confrontées au sexisme. Soit en tant que témoin, soit en tant que cible. Mm-hmm. Enfin, je ne vais pas énoncer tous ces chiffres, mais plutôt te redonner la parole pour dire un mot de concrètement ce que tu peux observer dans ton entreprise.
Alors, ce que je peux observer, c'est que sous couvert de... Alors que l'entreprise, elle s'inscrit officiellement dans la lutte contre les stéréotypes, en fait, ce qu'on peut constater, c'est que elle véhicule ces stéréotypes, en fait. Alors, je pourrais citer quelques exemples, notamment la représentation d'un homme et d'une femme côte à côte, où la femme tient un document dans les mains, mais c'est l'homme qui est tourné vers elle et qui lui montre, donc c'est lui qui semble détenir le savoir et elle qui est à l'écoute de l'homme, donc qui
est l'apprenante.
Voilà, exactement. Ce que je pourrais citer également comme exemple, c'est à l'occasion du 8 mars, qui est annoncée comme la journée de la femme. Mmh. C'est dire que c'est fait vraiment pour la forme et que, je veux dire, le concept de lutte et de droit des femmes est totalement absent de cet événement-là qui est fait pour la forme parce qu'il faut bien le faire. Donc, cette journée-là était marquée par... les placements de certains produits faits par des collègues hommes générer une petite rémunération destinée aux collègues femmes après un tirage au sort.
Regarde, je vois déjà Katia s'énerver là.
Donc moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais ça renvoie complètement au stéréotype, l'homme qui ramène l'argent dans le foyer, quoi. Ça m'a fait hurler quand j'ai vu ça, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin bon, quand on annonce ça comme la journée de la femme, après on peut s'attendre n'importe quoi derrière. Et puis, au-delà des stéréotypes, il y a même des choses qui sont beaucoup plus... qui sont pires que ces stéréotypes véhiculés sous couvert de les dénoncer et d'en faire une responsabilité de chacun, quoi, de renvoyer la responsabilité à chacun. Il y a même aussi... on a vu circuler des images qui sont vraiment dégradantes pour les femmes au niveau de la communication interne de l'entreprise.
Par exemple ?
Alors, des images, par exemple, des femmes qui étaient représentées comme des entraîneuses ou dénudées, ou une femme, un personnage imaginaire qui est connu, en train de déféquer, ou alors on évoque la maîtresse d'un homme public très connu. Voilà, enfin, ce sont quelques exemples.
Ça, c'était à l'occasion de la journée de la lutte des femmes.
Le reste, non, ça, c'est différent.
Ça, c'est quotidien, ça.
Oui, voilà, c'est plutôt ça. Oui, c'est super. Le quotidien, c'est le voilà, c'est au fil des semaines, au fil des mois, dans le temps, ça s'étale et c'est voilà, ça.
Alors la question qui me vient immédiatement, c'est est-ce que le CHSCT peut et en l'occurrence le vôtre, est-ce qu'il s'est saisi de cette question-là ?
Alors le CHSCT doit se saisir de ces questions-là puisque c'est tout à fait de son ressort. Pour rappel ou pour information, la loi Rebsamen a inscrit dans le code du travail les agissements sexistes.
Ben elle aura au moins fait un petit
au
truc
moins.
Bien.
On va lui garder ça. C'est déjà ça. De même que la loi travail.
Oh ben on
c'est
la
pareil.
Montre. Hein.
Donc
la première, août 2015, la seconde, août 2016. Ouais.
Alors
la loi
sur
travail,
la loi travail, nous on a reçu le mois dernier des salariés notamment du commerce. Hein, et on a pu discuter pas mal l'effet de la loi travail dans le commerce où on a énormément de temps partiel, non choisi par les femmes. Et c'est une catastrophe, la loi
catastrophe
travail,
pour
du
les
point
femmes.
De vue, oui, pour oui. le point de vue du temps oui, oui. de travail des femmes, oui. d'accord.
De ce point de vue-là, oui.
Ah,
oui,
ouf.
Oui, tout à fait. Non, non, là, c'est sans ambiguïté. Je faisais simplement référence au fait que la loi travail rend obligatoire l'inscription dans le règlement intérieur de l'entreprise de tout agissement sexiste.
De son interdiction.
Et voilà.
Voilà. Et là, et Sabine, tu l'as, je sais plus si tu l'as précisé, la loi Rebsamen, donc d'août 2015, elle introduit dans le Code du travail la définition voilà. et l'interdiction de l'agissement sexiste, et elle le définit comment ? Si je reprends le code, hein, c'est tout agissement lié au sexe d'une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Donc tu disais le CHSCT, on se saisit de ça.
Oui, parce que ces notions d'agissement sexiste, bien sûr, doivent être intégrées dans les mesures de prévention qui incombent à l'employeur, les autres facteurs de risque. Donc l'employeur est dans l'obligation d'inscrire ça dans son plan de prévention. Oui.
Et vous, j'ai envie de te dire, c'est simple, vous avez obtenu des choses, c'est difficile, déjà de mettre ça sur la table.
Déjà, c'est un sujet qui est porté par les femmes, déjà.
Étonnes.
C'est un sujet qui est très très difficile à mettre sur la table parce que c'est extrêmement banalisé. C'est très fréquent et très banalisé. Et c'est la première difficulté, ne serait-ce que d'obtenir un CHSCT sur une telle demande.
Ça t'est arrivé de le demander ?
Ça m'est arrivé. Et bien sûr, il n'y a pas eu de réponse à la première demande. Il a fallu un petit peu insister. On nous a dit, mais il y a d'autres élus sur un autre CHSCT qui travaillent sur la problématique des stéréotypes. Je pense qu'il y a un déni généralisé. De la part de l'employeur et d'un bon nombre de salariés.
Autre difficulté ou alors, à l'inverse, autre levier d'action
Autre difficulté, c'est le silence des femmes parce qu'on peut avoir peur, on a honte. Donc, c'est très, très compliqué d'en parler, d'oser en parler. Et je citerai même le cas d'une collègue qui est allée voir un médecin du travail et le médecin n'a pas du tout assumé ses responsabilités et a complètement banalisé aussi ce qui s'était passé.
Et donc c'est le silence autour de la parole des femmes, des fois. Aussi.
Complètement, complètement. C'est le déni aussi. C'est la loi de l'omerta. Et en termes de, si on peut parler des moyens d'action, je pense que les premiers moyens d'action, c'est les lois auxquelles on a fait référence. Enfin, le peu de côté positif qu'elles veulent avoir, il faut s'en servir. Puisque,
absolument.
Là, c'est gravé dans le marbre. Et puis, ce qui me paraît très, très important aussi, comme moyen d'action, c'est surtout de ne pas rester isolé et de trouver des gens pour travailler ensemble et élargir le plus possible le périmètre au sein des élus d'autres sites de l'établissement ou même au-delà des personnes complètement extérieures pour réfléchir et travailler sur ces problématiques. Surtout pas rester isolé.
Sabine, Katia, Anne, un grand merci. Camarade Bob, on est sympa, on te laisse conclure.
Je voulais juste remarquer une chose, c'est quand même c'est assez scandaleux la manière dont une avancée nécessaire comme la reconnaissance du sexisme au travail et les mises en place de dispositifs contre le sexisme au travail passe dans une loi, enfin dans une paire de lois qui sont par ailleurs sur tous les autres plans des reculs sur tous les plans. Et ça, je trouve ça hallucinant, c'est-à-dire qu'il faille attendre qu'on nous fasse passer la pilule. Avec effectivement cette question-là, des reculs sociaux, ce qui délégitime complètement quelque chose qui devrait être pour lequel on devrait lutter en soi, quoi. La question de l'antisexisme, ça devrait être une bagarre en soi et on ne devrait pas attendre de voir passer des lois scélérates, quoi, sur le droit du travail pour que ce petit truc soit mis en place. Ça aurait dû être fait par ailleurs dans un autre contexte.
Mais en fait, je conclue avec toi parce que je voulais absolument annoncer deux choses. Rappeler la VFT, l'association
européenne,
tu disais, Katia ?
L'association européenne des violences faites aux femmes au travail qui fait du très bon boulot.
Et puis dire absolument
juridique.
Que mardi 4 avril à 14h15 à Paris, à l'Université Paris Diderot, 5 rue Thomas Mann dans le 13e arrondissement, la Compagnie des Amours s'invite à une représentation Silence Complice, séance de théâtre forum sur sur les violences sexistes et sexuelles dans les relations de travail.
Ok, moi je rappelle juste le titre donc, de l'ouvrage dont on a parlé, Éducation populaire et féministe, paru en 2016 aux éditions de La Grenaille.
Et vous pouvez le commander à educationpopulairefeministe@gmail.com ou chez Violette Ainsi et Quilombo à Paris.
Yes, on fait voilà. Ça, à dans un mois.
Bye.
Same old same.